Bonjour, c'est Nicolas Descamps. Mercredi 13h, c'est une nouvelle occasion pour vous de découvrir avec Corinne l'histoire incroyable d'une de vos chansons Disney favorites. Et dans cet épisode, du sur-mesure pour une méchante Disney iconique, bienvenue dans Ne me remercie pas consacré à Cruelle Diablesse.
Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yernaud sur DLRP.
Bonjour Corinne, alors dans quel univers enchanté nous entraînes-tu aujourd'hui ?
Bonjour Nicolas, pas d'enchantement aujourd'hui, je vais t'emmener à la rencontre d'un personnage sombre, un vilain Disney. Elle est élégante, créatrice de mode et un très grand faible pour les fourrures les plus originales.
Alors je vois, tu vas nous parler de Cruella d'Enfer, cette horrible femme qui kidnappe les petits dalmatiens pour s'en faire un manteau.
Eh oui, facile.
Oui, un peu en effet.
Cette vilaine que Roger nous décrit si bien dans Cruelle Diablesse.
Plein d'humour et décalé, comme j'aime.
Et pourtant, on a bien failli en être privé, comme du film d'ailleurs.
Encore, c'est une habitude chez Disney de voir des chefs-d'œuvre sauver in extremis. Alors je t'écoute.
Une fois encore, on doit ce cadeau au côté visionnaire de Walt qui résistera à la pression. Nous sommes en 1959 et La Belle au bois dormant est un échec cuisant. Pour les financiers, il faut arrêter ces longs métrages trop coûteux. Mais Walt Disney résiste. Le long métrage, c'est son idée. Depuis 1956, il a même arrêté le court métrage pour ça. Il supplie. Surtout que deux productions sont en cours, Merlin l'Enchanteur et Les 101 Dalmatiens.
Mais où avait-il pêché l'idée de kidnapping de chiens ?
Comme souvent, dans la littérature. Avant d'être le film que l'on connaît, The 101 Dalmatians est un roman publié par Dodie Smith en 1956. Et c'était aussi un feuilleton publié dans un magazine, dans une adaptation de Bill Pitt.
Ah, Bill Pitt, tu nous en avais déjà parlé, c'était dans le livre de la jungle, je crois.
Exact, c'est lui qui avait amené l'idée d'adaptation du livre de Kipling. Mais c'est aussi Cendrillon, La Belle au bois dormant, Peter Pan, Alice au pays des merveilles. En 1957, Disney séduit, acquiert les droits. Et il demande à Pitt de travailler sur un scénario. Voilà comment arrive ce film tout à fait original dans le monde de Disney, puisque, pour la première fois, le long métrage raconte l'histoire à travers les animaux.
Attends, mais il y avait quand même eu Bambi ou Dumbo auparavant.
Mais dans Dumbo, s'il n'y a pratiquement pas d'humains, c'est un homme qui raconte l'histoire. Et même chose pour Bambi. Mais surtout, c'est ici l'un des Disney les moins musicaux, puisque pour la première fois, le film ne repose pratiquement pas sur des chansons.
Oui, mais quand même, le fameux Cruelle Diablesse, on le doit au frère Sherman.
Et non. Pas de tandem pour l'écriture des chansons, mais un seul compositeur, Mel Levin.
Ah, décidément, c'est vraiment le film de tous les inédits. Mais qui est ce Mel Levin ?
Mel Levin se fait connaître dans le milieu de l'animation dans les années 50. Il collaborait avec The United Productions of America pour le célèbre Mr. Magoo. Il a aussi écrit pour Nat King Cole, Dean Martin, les Andrew Sisters et pour Peggy Lee.
Every time you kiss me, I get warm inside.
Peggy Lee, c'est celle qui écrira les chansons de La Belle et le Clochard.
Exactement. Tu comprends donc le rapprochement avec Disney, c'était une évidence. Walt Disney l'a même invité à faire partie de son équipe de rédaction. Il aura alors l'occasion de collaborer régulièrement avec le compositeur George Burns, qui écrit lui la musique du film. Disney demande à Levin d'écrire une chanson sur cette méchante amoureuse de fourrure. Le compositeur se lance et propose une variété de morceaux, dont l'une qui évoque la création de l'affreux personnage dans un cimetière. Mais moins d'une heure avant la rencontre avec Walt, il change d'avis et écrit une page dans un style blues. Une mélodie malicieuse accompagnée d'un piano que vient soutenir des notes de trompette à la Louis Armstrong.
Mais pourquoi ce revirement soudain à la dernière minute ?
Mais il venait d'entendre un morceau de Thelonious Monk qui l'inspire et il compose Cruella de Vil en 45 minutes chrono. C'est la version que va choisir Walt pour son côté, tout en contradiction. Cruella, mode ou folle ?
Oui, c'est vrai qu'elle est différente des autres vilains Disney, cette Cruella.
Dans le roman, Cruella, c'est une jeune fille gâtée par une famille très riche et blasée de tout. Bill Pitt la rend plus flamboyante, dangereuse, ce qui lui donne un aspect comique. Pour la première fois, on se trouve face à une méchante. Certes, mais pas une sorcière au pouvoir magique. C'est plutôt une grande dame horrible que l'on peut croiser chaque jour.
Oui, enfin, méchante et hystérique aussi, non ?
Quoi qu'elle fasse, Cruella ne se remet jamais en question, ce qui conduit à cette image de folie. Pas étonnant donc que Roger se moque d'elle de cette façon.
Oui, on pourrait dire carrément explosive et excentrique. Cruella, c'est le diable s'habille en Disney à ce niveau.
Exactement, un personnage intéressant. La première d'une longue série de méchants comiques dans les studios Disney.
Mais revenons-en à la chanson elle-même, si tu veux bien. Tu me disais que Mel Levin en avait écrit plusieurs versions pour décrire ce personnage, et une avec une histoire de cimetière.
Oui, une chanson écrite en 1958 dans laquelle Roger imagine que Cruella n'a pu voir le jour que par une sorte de magie noire dans un cimetière, par 9 sorcières qui mourront de peur en voyant Cruella.
Loin de l'esprit du film, ça.
Bah, tu comprends pourquoi Walt a choisi Cruella Devil plutôt que Creation of Cruella. Pas de magie dans l'histoire. Mais on a quand même un enregistrement.
Through an old abandoned graveyard, I walked one foggy night and chanced upon a freshly opened grave.
Oui, Walt Disney a sans doute fait le bon choix, même s'il doit être frustrant de voir une composition abandonnée.
Et ce n'est pas la seule chanson qui part à la poubelle. Levin a écrit 2 autres chansons que le film ne reprend pas. La première, pour Horace et Jasper, qui, sous l'effet de l'alcool, nous parle de ne pas acheter un perroquet à un marin. L'autre pour Colonel, qui entraîne la bande de chiots vers Londres.
Cheerio, goodbye, toulou, hip hip, we're on our way to London. Toulou, hip hip, cheerio, goodbye, we're all of us going home.
Avec toutes ces chansons qui sont abandonnées, il reste quand même quelques chansons de Mel Levin dans ce film.
Oui, on lui doit 2 autres instants, mais presque anecdotiques. Il y a ce moment où les chiots de Pongo et Perdita sont fascinés par la télévision où passe la publicité pour Canin Crunchies, une marque de croquettes dont le jingle est écrit par Levin. Et puis il y a le happy end. Tous les chiots sont sauvés par Roger et Anita qui leur ouvrent une maison de rêve, la Dalmatian Plantation, qui clôture le film.
We'll have a Dalmatian plantation where our population can roam.
Et ce film avec autant d'innovations rencontrera-t-il le succès auprès du public ?
Ben curieusement, malgré un tout petit budget, le succès est là. Les critiques seront même les meilleures depuis Pinocchio en 1940. Un succès mérité, vu la qualité de l'écriture et les situations remplies d'humour auxquelles ont travaillé 300 artistes pendant 3 années.
3 années qui ont conduit à une méchante iconique dans l'univers Disney. Merci Corinne de nous l'avoir fait découvrir et à bientôt pour une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne.
À bientôt Nicolas.
On a un vampire qui vous fait frémir, il faut qu'on l'enferme dans une cage de fer. Je n'en connais pas qui soit plus perverse que cette cruelle diablesse.
Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.